Chœur Salle-Pleyel avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Tous nos concerts au 01 56 45 16
et sur concert.radiofrance.fr.
Bonjour, c'est Florence Aubenas
et Jean-Marc Four.
Depuis 7 mois, les journalistes Nicolas Hénin, Édouard Elias, Didier François, Pierre Torres sont détenus en Syrie.
Radio France et le comité Otages en Syrie organisent le lundi 6 janvier de 19h à 21h à la Maison de la Radio à Paris une soirée Retour de Syrie.
Avec des témoignages exceptionnels d'anciens otages en Syrie. Plus d'informations sur radiofrance.fr.
France Inter.
La voix est libre.
15h04, c'est le moment de retrouver Daniel Mermet là-bas si j'y suis.
Bonjour à tous les AMG. Tout d'abord, une bonne année à tous. Hein. De bonnes émissions dans toute cette nouvelle année, malgré l'hostilité bien sentie de la direction de France Inter. Pour les AMG brétiliens et brétiliennes, on redémarre le Café Repère du bar L'Entretemps à Liffré le mercredi 8 janvier prochain à 19h. Le thème de la soirée sera le salaire universel. Après avoir visionné une vidéoconférence de M. Bernard Friot, nous débattrons tranquillement autour de ce thème. Alors surtout, venez nombreux nous rejoindre, donc à L'Entretemps, à Liffré, le mercredi 8 janvier à 19h. C'était Pascal de Liffré.
Le concert du Nouvel An à Vienne, je ne sais pas vous, mais moi je le déteste. Que dis-je? Je le hais. Cette mièvrerie, cette guimauve ostentatoire me navre. Nous y avons droit chaque année. Et le bon peuple se régale de cette beauté à 1 500 € le strapontin, de ces pitoyables moments de dégoulinante musique attendue, sans émotion, sirupeuse musique de charité, de bienséance et de dorure. Agrémentant cette soupe enfroufroutée, les images désolantes d'une pénible chorégraphie sans une once de sensualité, dont le modernisme tient à la tenue de couleur des tristes officiants rompant avec le classicisme du kitschissime tutu blanc. Ponctuant cette merde viennoise, la fameuse marche de Radetzky, au cours de laquelle, folie suprême, les mémères à vison et leurs époux desséchés se lâchent et tapent dans leurs mains sous le regard bienveillant du chef d'orchestre, qui, s'il a un soupçon de bon sens, doit se demander ce qu'il fout là. C'est grotesque. Cerise sur le gâteau, le générique de fin s'achève par le nom du partenaire. Je vous le donne en mille. Rolex. C'est à gerber. Bonne année à vous et vive la musique. Georges Philippe. Salut.
Bonjour Daniel. Bonne année, enfin je l'espère de tout mon cœur pour toute l'équipe et pour toi. Moi je voulais faire une petite aparté concernant Véronique Decker. C'est une directrice de l'école Marie Curie à Bobigny. Elle accueille les enfants roms dans son établissement. Et pour ça, elle arpente les bâtiments. Elle rappelle aux parents l'importance de suivre régulièrement l'école pour ses gosses. Il n'y a pas d'infra-humain parmi les enfants. Il n'y en a pas qui ont moins de besoins et moins de droits, surtout que les autres. Oui, évidemment, leur différence, c'est la pauvreté. Il faut être tolérant. Merci Daniel. C'est Michel Dugard.
Oui, bonjour toute l'équipe de là-bas. Eh bien, c'est pour vous souhaiter une excellente année, en espérant quand même que l'émission sera reconduite le vendredi, parce que ça fait un peu court. Alors, bonne année à tous. C'est Jacqueline en Gironde. Au revoir.
J'ai écouté l'émission de bout en bout. J'ai été saisie. L'authenticité de cet homme, la clarté, la simplicité, je ne l'avais pas entendu jusqu'à présent. Voilà, on entend un homme clair, authentique, avec un chemin droit. La beauté de sa voix même, c'est vraiment très très beau. Ça fait du bien. Il est né en 22, je suis né en 26. Et je ne suis pas juif. Voilà, connaît.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Vous soufflez dans les voiles du bateau de la Bassusisfi sur l'océan 2014. Et ça nous fait du bien. Formidable. Et une petite demande, on est plus court, vous le savez, cette année, on nous a enlevé 8 minutes de notre émission, donc on a moins de place pour vos messages, hélas, donc on vous demande de faire court si possible. Alors je me demandais comment vous présentez l'émission d'aujourd'hui, le deuxième volet de Charles Palland. Croire au matin, Charles Palland, 92 ans, résistant, militant. Il nous a raconté hier sa jeunesse, de petit juif polonais né à Belleville en 1922, qui était déjà syndicaliste et porte-parole de la CGT en 1936, déporté à Auschwitz en 1943 et qui sera à l'origine du MRAP. Et je me demandais comment vous présentez cet homme-là. Et je regarde par ma fenêtre, il y a des pots de fleurs, et là, bien sûr, elles sont fanées par l'hiver, mais il y en a une seule, qui tient le coup. C'est un géranium, cette petite fleur rouge tient le coup, une fleur rouge qui résiste et qui refleurit au printemps, voilà, c'est Charles Pallant. C'est le genre d'image, de métaphore qui va très bien avec cet homme qu'on va retrouver aujourd'hui, avec qui on va passer cette heure de là-bas si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Ainsi, le progrès serait une tempête poussant l'histoire vers la catastrophe. La nature n'existe pas, comme la société n'existe pas. Inclure les écosystèmes dans le processus d'accumulation, évaluer, capturer, marchandiser, les liens unissant les sociétés et la nature sont niés. La planète réduite à un paysage, un objet extérieur, une réserve inépuisable de richesses. N'est-ce pas parce que 20% des humains s'approprient 86% des ressources naturelles que les autres crèvent de faim ? 2014, l'écosystème vous invite à penser l'économie au café repère de là-bas si j'y suis de Montluçon, le samedi 4 janvier à 18h à la Pinte d'Étain. Bonne année à tous. C'était Carole au 04 73 52 08 71. Salut.
Oui, bonjour, Corinne de la Seine-sur-Mer dans le Var. Bon, je traîne sur le net, sur Twitter, etc. Et voilà, ce qui m'est apparu, c'est qu'à partir du moment où on n'est pas socialiste, pour le bon peuple de France, on est automatiquement le péniste. En fait, soit tu es à l'UMP, soit tu es au Parti Socialo. C'est comme ça que se résume la chose à l'heure actuelle. Alors, en ce qui me concerne, du fond de mon ghetto, dans lequel je n'ai jamais vu un révolutionnaire, j'ai fait le choix de ne plus voter. Parce que moi, je ne vote ni utile ni futile. J'ai 56 ans, j'ai toujours voté pour des idées. Et là, mes idées, ben, il n'y en a plus. Salut les gens, salut à tous.
À la belle équipe de la Basse, j'y suis, des baisers sucrés ou salés, comme il plaira à chacun, pour une année 2014 tendre et subversive. Sans oublier, année d'élection oblige, le conseil d'un vieil ouvrier dans le fond de l'air et rouge de Chris Marker. Vote le plus rouge que tu pourras. Ça a toujours le temps de pâlir.
Mesdames, messieurs, la guerre est déclarée en septembre 1939. En quelques semaines, en mai-juin 40, les armées allemandes ont envahi l'Europe. Vaincus, notre pays est occupé dans la fiction d'une zone dite libre à Vichy. S'installe le gouvernement qui aussitôt congédie la République, abolit les libertés publiques, édicte le statut des Juifs contre lequel il va commettre l'irréparable et ouvre la cruelle et impitoyable chasse aux résistants. En janvier 1943, la défaite allemande à Stalingrad marque le tournant de la guerre. Cette année-là, à Lyon, le 17 août 1943, la police allemande est venu m'arrêter. Découvrant notre judéité, la Gestapo a arrêté aussi ma mère et ma jeune sœur. Après 6 semaines de détention au Fort Montluc, nous sommes transférés à Drancy dans la région parisienne et quelques jours plus tard, déportés à Auschwitz dans le 60e convoi de 1000 juifs livrés à la solution finale.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, si j'y suis, avec Charles Palan. Croire au matin.
Flight number 2, arriving from New York.
Déporté, nous, les 260 retenus pour notre jeunesse, notre apparence bonne santé, enfin bon, bref, nous sommes amenés vers un lieu à 7-8 km de là, dont nous allons découvrir que c'est également un grand camp qui s'appelle Buna Monowitz Auschwitz III. Dans le langage hitléro-administratif, Buna, c'est le nom commercial du caoutchouc synthétique produit par la fameuse firme des produits chimiques IG, les deux initiales, Farben Industries, le plus grand tros des produits chimiques à cette époque en Europe, parce que à la fois ils étaient d'origine allemande, mais que par l'occupation militaire de tous les pays d'Europe, en France, ils avaient confisqué Kuhlmann, par exemple. La grande firme Kuhlmann n'était plus qu'un appendice de IG Farben. Et on n'a pas le temps d'entrer dans les détails de ce camp de Buna-Monowitz où, quand on recevra l'ordre de nous déshabiller, on est en plein air, on est dans la cour, là. On est en octobre, il fait déjà très froid. Il est déshabillé, mais ils sont malades, ces mecs. Déshabillez-vous. Et les SS passent dans les rangs et à chacun donne un coup sur l'épaule pour nous obliger à nous accroupir afin que ressorte éventuellement un bijou qu'on aurait caché dans l'anus. Eh oui. Et bientôt, un commando va venir nous tatouer le bras gauche. Un commando de coiffeur va venir avec des tondeuses pour nous raser de la tête et sous les bras et entre les jambes. Et ensuite, on va nous plonger chacun dans une baignoire d'eau chaude mêlée de mercril pour nous désinfecter. Et puis à la sortie de ce bain, on va nous jeter un pantalon, une chemise, des claquettes en bois à la place des chaussures. Un aura un pantalon 4 fois trop grand, un autre 2 fois trop petit. Mais bon, on sort de là déguisé comme dans un cirque infernal, tandis que tournent autour de nous des gens plus anciens, habillés de cette tenue rayée. On se dit, mais on est en enfer, c'est pas possible, où est-ce qu'on est ici? Et puis, le chef de bloc va nous tenir un discours. Le chef de bloc est lui-même un détenu, mais habillé comme un général, avec un brassard. Et c'est pas difficile, il nous lit le code du camp. Ne pas se ranger, vite, c'est la mort. Désobéir, c'est la mort. Voler, c'est la mort. Se tenir sale, c'est la mort. Mal travailler, c'est la mort. C'est un code réduit à sa plus extrême simplicité. Il n'y a qu'un seul article, tout est puni de mort. Et si on échappe à toutes ces condamnations à mort, eh ben on est quand même destiné à mourir parce que personne ne doit sortir vivant du camp. Voilà le discours d'accueil. Et s'engage, pour les plus lucides, si j'ose dire, un combat intérieur. C'est ici qu'il faut tenir. Mais comment tenir quand on est un jeune marié qui a vu sa femme partir vers la chambre à gaz, quand on est un jeune papa dont les enfants, on nous parle qu'ils sont déjà gazés et en train de fondre dans les fours crématoires. Tout ça nous paraît à la fois incroyable et horrible pour notre propre survie. Comment survivre avec ça? Une autre forme de combat pour la vie s'engage pour chacun de nous. Sauver son moral, refouler ses souvenirs, remettre à plus tard le deuil, c'est un combat pour la vie. Et pendant 2 jours, on nous apprend à nous mettre en rang, à venir à l'appel le soir et le matin, enfin, c'est le bizutage. Et puis enfin, 3e jour, nous sommes formés en commando de travail et nous partons pour les chantiers dont on sait qu'ils jouxtent le camp, c'est tout près, hein, il y a quelques centaines de mètres à faire. vers lesquels nous marchons au pas, au son de la musique d'un orchestre du camp, composé lui-même d'anciens détenus.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Qu'ils essaient d'oublier et tenaient qu'à leur âge les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez.
L'incroyable se poursuit. Nous débouchons sur ce chantier dont les plus anciens nous ont déjà expliqué qu'on y construit un vaste complexe pour faire de l'essence synthétique, pour faire du caoutchouc synthétique, d'où le nom de Buna. Alors, Buna, c'est le nom du caoutchouc synthétique. Monowitz, c'est le nom allemand du village où tout ça se construit. Et Auschwitz III, c'est le nom administratif du camp dans lequel nous sommes, et qui regroupera plusieurs dizaines de camps moins importants, travaillant tous pour Ilié Parben. Alors, ça va de la construction à laquelle nous sommes contraints de participer, jusqu'aux mines de charbon de Yabichovitch, et même des camps agricoles où se plante et se cultive une partie de l'alimentation qui permet aux camps de survivre. Tout se tient. Quand nous arrivons sur le chantier, pour ma part, je découvre les enseignes des plus vastes entreprises européennes. Tiens, là, les transports, là, la construction, là, l'électricité, là, l'électromécanique. Mais c'est quoi le nazisme? C'est quoi le nazisme? Pour cet embryon de militant que je suis déjà. Mais c'est l'instrument terroriste de la domination de l'expansionnisme allemand sur toute l'Europe. Cette idée me pénètre, ne me quittera jamais. Là, nous sommes, nous, les 10 000 déportés du camp de concentration. Je regarde autour de moi. Il y a même des prisonniers de guerre en uniforme. Des prisonniers anglais qui sont logés dans un camp voisin du nôtre. Il y a des Russes, des Polonais, des citoyens de tous les pays occupés par l'Allemagne, et qui sont, comme on disait à l'époque, des déportés du travail, avant que le mot « déporté » leur soit interdit, en tout cas en France, censé n'appartenir qu'aux déportés des camps de concentration. On l'appellera des travailleurs contraints. Et c'est donc ça, toute l'architecture de la société nazie. C'est ça.
Mais enfin, c'est le capitalisme, c'est une des formes du capitalisme.
Oui, mais c'est un peu facile. Par exemple, moi, j'ai travaillé dans une petite entreprise, je l'ai dit.
Oui.
Mon patron n'était pas un capitaliste. En ce temps-là, le capitalisme est un capitalisme de production. Il n'est pas le capitalisme financier que nous connaissons aujourd'hui. Mais on ne donne pas ce nom aux choses. parce que ce qui nous domine, c'est le fascisme. C'est pas le capitalisme. Le nazisme, le fascisme. C'est ça, le pétrin dans lequel nous sommes. C'est de ça qu'il faut sortir. Et pour ce faire, nous assistons aussi à la plus extraordinaire alliance jamais conclue entre l'Union soviétique de la révolution ouvrière et les États-Unis, qui sont le top du capitalisme. Donc, nous sommes à la fois plus ignorants et plus ouverts. Hein ? Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Et cette conscience que le fascisme, le nazisme, ne sont que des instruments terroristes d'une domination des privilégiés, ne me quittera plus jamais. Ne me quittera plus jamais. Hitler n'est pas tombé du ciel. Parce que s'il est tombé du ciel, il suffisait de le faire remonter pour tourner la page. Or, c'est pas comme ça que les choses se passent. Quand on entendra à Krupp, après la guerre, au moment du procès de Nuremberg, du procès des industriels, qui est un autre procès que des grands criminels, comment se fait-il que des hommes de votre culture ont fait confiance à de tels bandits, à de tels criminels ? Sa réponse a été toute naïve et toute simple. Quand on veut aller loin, faut pas regarder trop les dents du cheval. Voilà ce que Krupp a répondu après un drame qui a coûté 50 millions de vies humaines.
Les actualités françaises, 30 novembre 1945.
Nuremberg est aujourd'hui une ville ruinée. Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich. Dans son stade immense, Hitler croyait faire trembler le monde. Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges.
Military Tribunal number 6 will come to order.
Procès de Nuremberg numéro 6.
Vermeer.
Ic Farben, 27 août 1947.
Dans la Pologne occupée, là où l'un des plus grands camps de concentration d'Himmler venait juste d'être construit. Cette ville était Oswiecim, qu'on appelle en allemand Auschwitz. Ambrose trouva le site très adapté et se montra particulièrement intéressé par la possibilité d'utiliser le camp de concentration pour installer une usine. Il en informa les autres inculpés, qui donnèrent leur accord, et la construction de l'usine Farben d'Auschwitz fut rapidement lancée. Himmler louait aux inculpés la misérable main-d'œuvre détenue dans ses camps, esclaves qui mouraient à construire ses usines.
...1934-1936, le Front Populaire, la guerre d'Espagne, la défaite de juin 40, la Résistance. Charles Palan, né en 1922, a vécu tous ces chapitres de notre histoire. Et puis c'est 1943, Auschwitz, c'est les camps, c'est Buchenwald. Tous ces événements ont fait l'objet de tant d'interprétations, de récupérations, de révisions, mais aussi tant d'oubli qu'il devient... nécessaire de revenir au récit des témoins, récit d'un témoin comme Charles Palan, avec toute sa subjectivité et avec toute sa sincérité.
Quand la guerre se termine et que l'île...
Combien de temps vous êtes resté dans ce...
Je suis resté presque 2 ans. Août 43 jusqu'à mai 45.
Et comment se passe la libération du camp ?
La partie du cortège dont je faisais partie a abouti à Buchenwald. À Buchenwald, je vais y rester de janvier 45 à avril, au début d'avril 45, jour de la libération, par les Américains. C'est pas l'euphorie, c'est la joie d'être libre. C'est pas l'euphorie. Tout à coup, nous retombe comme la vision d'un film interrompu pendant notre détention. Et dans ce film apparaissent les êtres chers que nous ne reverrons jamais. Nos parents, nos mères, nos sœurs, nos frères, nos enfants. Et puis aussi tant de copains avec lesquels on discutait de projets, avec lesquels on partageait l'espoir de ce jour-là que nous sommes quelques-uns à avoir vu et que tant de ceux qui auraient mérité de le revoir ne verront pas parce qu'ils sont morts. Nous sommes donc libres. Et c'est à Buchenwald, libéré, que vont apparaître les prémices de ce qu'allait devenir la société, la nôtre en France. Par exemple, sur un des blocs apparaît bientôt un panneau « Parti communiste français ». L'un des responsables de la résistance intérieure du camp s'appelait Marcel Paul. On disait Paul Marcel à l'époque, ancien militant syndicaliste des travailleurs d'électricité, responsable militaire de toute la région parisienne au moment de son arrestation. Il va, à la demande de De Gaulle, aussitôt informé, Marcel Paul et un autre Français qui s'appelle Maurice Nègre, qui sera plus tard le patron de l'agence de presse France-Presse, et Marcel Paul qui sera ministre bientôt, sont amenés en avion jusqu'en France, reçus par De Gaulle, qui confie à Marcel Paul, volontaire, la mission d'organiser le rapatriement des Français de Buchenwald. Ce dont témoignera plus tard, quand on essaiera de calomnier Marcel Paul, ce contre quoi va témoigner Bloc Dassault, le futur grand patron de l'aviation française.
Marcel Dassault.
Qui s'appelle Marcel Bloc Dassault. Et il va témoigner pour l'héroïsme de ses camarades communistes qui ont veillé à sauver des hommes qu'on considérait comme les plus précieux pour l'avenir de la France. Quelques 15 jours après, nous sommes rapatriés et je vais revenir en France. Enfin, je ne vais pas m'en mettre trop dans les détails. Il n'y a qu'à lire mon bouquin d'ailleurs. J'y sont les détails. Hein. 29,90. Oui. Je suis en train de tout raconter à l'œil. Mais c'est pour faire plaisir à vos auditeurs, cher Daniel. Il ne faut pas exagérer quand même. Voilà, je reviens à Paris, c'est le 29 avril 1945, un dimanche. Ce jour-là ont lieu en France les premières élections municipales de la France libérée. Et, en même temps, est reconnu enfin le droit de vote et d'être élu à la meilleure partie du peuple français, c'est-à-dire les femmes. Alors, le 29 avril, deux jours après, c'est le 1er mai, grand défilé populaire, au premier rang duquel on va mettre les premiers déportés. Ils défileront en tête. Alors qu'il avait fait si beau en avril, la météorologie, sans considération pour notre état de santé, remet un froid terrible en vigueur. Il fait très froid le 1er mai 1945. On se croirait déjà en 2013. Et évidemment, partout, on fait un accueil. Nous avons failli être des fantômes, nous ne sommes que des revenants.
Les actualités françaises.
1er mai 1945. Pendant 4 ans, ce ne fut que la Saint-Philippe Pétain. Vichy avait réussi à détourner à son profit la fête des travailleurs. Mais Paris, libéré, est revenu à ses traditions populaires. Le même jour, à l'autre bout de Paris, un autre cortège montait vers l'étoile. 150 déportés libérés venaient s'incliner devant la tombe du soldat de 18. Mais 18 ne fut qu'un acte du drame. C'est aujourd'hui que le rideau tombe, et ce rideau, c'est un linceul. Car c'est le souvenir de leurs frères écroulés dans les fosses nazies qu'apportent là les bagnards de Buchenwald. C'est le souvenir des torturés, des morts de faim, des morts de coups qu'apportent ici dans leur livrée misérable ces évadés du tombeau. Et il y a dans le silence de cette confrontation entre le mort glorieux et les rescapés de la tombe comme une prière et comme un ordre. Souvenez-vous.
le plus triste, ce sont les gens qui s'agrippent à nous avec des photos. Avez-vous connu un tel ? Avez-vous connu un tel ? Mais c'est aussi l'euphorie de la fin du cauchemar. Nous revenons sur les 80 000 juifs déportés, il en reviendra 2500. 3%. Sur les 90 000 et quelques déportés, pour d'autres raisons que les persécutions anti-juives, il va revenir 40% à peu près. Les autres ont disparu dans les camps de la mort lente, comme on disait, en parlant des camps de concentration nazis. Mais il revient aussi 1,5 million de prisonniers de guerre, qui, eux, débarquent dans un monde pour eux inconnu. Eux, ils n'ont pas connu ni l'occupation, ni toutes les modifications sociales, politiques, culturelles que l'occupation a générées. Il revient aussi plus de 600 000 déportés du travail, comme on disait encore.
Les STO, oui.
Pas seulement des STO. Les STO, c'était une mobilisation classe par classe. Il y a eu tous les autres qui ont été, par la force ou par la ruse, amenés à partir travailler pour l'Allemagne. Alors, le poids des quelques milliers de déportés ne pèse pas très très lourd, sinon pour leur propre famille. Quant aux malheureux déportés juifs, les 2500 dont je parle, la plupart d'entre nous n'ont même pas par qui être reconnus. Nous sommes orphelins de pères, de mères, de frères, de sœurs. Nous sommes orphelins de nos voisins de palier. Nous sommes orphelins de tout. Et il y a ceux dont la fuyante indifférence est bien difficile à aborder. Sans compter le cas d'un certain nombre d'entre nous qui se rendant dans les lieux où ils habitaient avant, y trouvent des réfugiés de zones bombardées, de zones détruites, installées, et qui comprendront mal ces juifs qui reviennent de loin et à qui il faut rendre leur demeure. Il faut cependant s'accrocher. Je fais partie de ceux qui, militants, ont des raisons de s'accrocher à la reconstruction de la vie qui n'est pas seulement ma vie propre. Nous sommes happés par les militants, nos amis, ceux qui espéraient notre retour. Et le témoignage que je développe devant vous aujourd'hui, on me le demande dès 1945, quand on dit « mais vous n'avez pas parlé, vous avez attendu des dizaines d'années avant de parler ». On n'a pas entendu pour parler, on a attendu des oreilles pour nous entendre. Ah. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Charles, dites-moi alors, quand est-ce que vous rentrez au Parti communiste ? Ça m'intéresse beaucoup.
J'ai vécu la déportation au milieu de ses camarades communistes. Mais j'ai vu à l'œuvre, partout où c'était possible, ils ont été les artisans véritables de toute velléité de solidarité. Y compris par des retrouvailles internationales. Abou Nahmanovitch, la cellule communiste, y réunit des communistes français, des communistes allemands, des communistes tchèques, des communistes polonais.
Vous aviez fait une cellule communiste ?
Il n'y a jamais eu cessation du combat clandestin, y compris dans les camps. Les militants engagés n'ont jamais cessé d'être des militants engagés. En prison, dans le train qui les emmène, dans le lieu où on les emmène. Ils sont des militants engagés, courageux, lucides, dévoués aux autres. Cette leçon me marque. Et puis, j'ai le souvenir qu'enfant, dans notre quartier, on se voulait communiste. Communiste, ça veut dire qu'on refusait toutes les injustices, tout ce qui va. Ça voulait dire ça. Nous étions des enfants de la Révolution française, à Belleville. J'habitais rue Rampenaud, la rue où s'est tenue la dernière barricade de la commune de Paris.
Mais oui.
J'avais pas besoin d'aller à l'école du parti à Moscou, moi. Donc, j'adhère au Parti communiste. Le 13 avril 1945, à Buchenwald, comme 150 Français qui ont survécu. Et je revois, je reverrai toujours d'ailleurs, le camarade assis en face de moi qui reçoit mon adhésion. Eh bien, sais-tu ce que c'est que le programme du Conseil national de la Résistance ? Pour nous, communistes français, il s'agit de travailler à l'application de ce programme. Il s'agit de travailler à la reconstruction de notre pays. Il faut construire la paix. Et c'est en cela qu'il me paraît un vrai révolutionnaire. Il ne me parlait pas d'installer un kolkhoz au pied de la Tour Eiffel. Hein? Et je suis donc devenu membre du Parti communiste français à Buchenwald après la libération.
La chance avec Charles Palance, c'est que c'est encore un homme qui nous parle, non pas une légende ou une statue ou un de ces saints laïcs et intouchables que la géographie a fabriqué. Charles Palance.
Alors, on n'a pas le temps de dire ouf, qu'éclate la guerre froide. Voilà que l'avenir marche sur deux béquilles pourries qui s'appellent le fanatisme. D'un côté, on est fanatiquement pro-soviétique, de l'autre, fanatiquement pro-américain. Et ça passe à travers les familles. Des frères sont divisés. Et pourtant, il faut y aller vers l'avenir. L'avenir, ça commence tout de suite. Ça n'attend pas. Voilà les conditions de notre retour à la vie, notre reconstruction.
Vous retrouvez un boulot, qu'est-ce que vous faites ?
Ça se pose comme pour tous les jeunes, il faut apprendre ou reprendre un métier pour gagner sa vie. Il faut que je travaille, alors je recommence dans mon métier, je reprends petit à petit la maroquinerie, d'abord chez quelqu'un, puis à mon compte dans une toute petite entreprise qui durera quand même près de 10 ans.
Vous m'avez dit que vous aviez des petits-enfants et des arrière-petits-enfants,
oui.
Donc il y a quand même un moment où vous vous mariez.
Dans une des premières réunions des jeunes de la LICA, presque tous les soirs, au foyer de la rue de Paradis, dans le 10e arrondissement, nous sommes des dizaines et des dizaines. Chacun rejaillit avec une soif de rattraper le temps perdu, de danser, d'écouter, de participer, de discuter. Et puis un soir, mon regard croise le regard d'une jeune fille qui est assise là, avec qui je cherche à lier une connaissance un peu plus approfondie.
Et pas forcément uniquement politique.
Et pas forcément encore que l'amour peut être considéré comme une tâche politique de première importance. Mais je suis pas chinois, moi. Bien, cette jeune fille, un soir, je lui proposais de la raccompagner. Elle habitait à la gare du Nord et moi à la République. Et quand nous avons parlé d'amour, moi j'ai parlé de ma mère et de ma sœur. Elle a parlé de son père, de sa mère et d'une petite sœur de 4 ans, déportée. Elle est restée seule comme je suis revenu seul. Jusqu'à ce moment où nous nous sommes assis sur un banc du boulevard Magenta. Elle a posé sa tête sur mon épaule. C'était notre premier discours d'amour qui nous concernait tous les deux. Elle est morte, 57 ans après, en me laissant les 3 filles dans les photos sont là. Est-ce que j'ai été le meilleur des maris ? J'en sais rien. Est-ce que j'ai été le plus assidu des pères ? Je n'en sais rien. Mais je crois que nous avons toujours réussi à être très fiers les uns des autres. Ma femme de moi, moi d'elle, et les enfants de leurs parents.
Votre nom, quand même, est lié au MRAP, à la création du MRAP. Alors, il faut quand même évoquer...
Vous tenez toujours à vos 52 minutes. Ça va être 52 heures, hein.
Alors, il faut quand même qu'on évoque le MRAP.
Oui. Alors, le 8 mai 1945, le 8 mai, jour de la capitulation allemande, est aussi un jour de grand massacre en Algérie.
C'est TIF.
Eh oui, des dizaines de milliers de victimes. Parmi les premières commémorations de notre propre libération à Madagascar, il y aura 80 000 morts.
Ouais.
Et voilà qu'à Bandung, les peuples, en exigence d'un avenir digne, se réunissent et créent la notion de tiers-monde, la notion de combat pour retrouver la souveraineté, et que nos combats dérisoires contre le racisme que nous menons comme des enfants des peuples colonisateurs, fiers d'avoir apporté les instituts Pasteur et les chemins de fer aux peuples sous-développés, doit prendre conscience que les autres peuples ne sont pas sous-développés. Ils ont une histoire, ils ont une culture. Ils ont droit à un avenir. Il faudra se rappeler que le 15 août 1944, quand Juin, à la tête des forces françaises libres, débarque en Provence, il en parla lui-même comme du jour où les Arabes ont libéré la France.
Oui. Hein ?
En échange de quoi ? Les Arabes auront le droit de venir dans le pays reconstruire nos routes, nos maisons, nos usines, pour des salaires de misère, logeant dans les bidonvilles de nos grandes cités. Le combat contre l'injustice prend une autre dimension. Cette dimension que, à mon avis en tout cas, la Ligue a été incapable de prendre au moment où il fallait le faire, et qui va conduire un certain nombre d'anciens résistants de tous bords à l'incitation, il est vrai, du Parti communiste français de fonder un grand mouvement contre le racisme qui prendra en compte les combats dans les conditions nouvelles où elles s'opposent. Et ce sera le MRAP, parmi les fondateurs desquels je figure, et dont je deviendrai, un peu plus d'un an après, le secrétaire général.
Jusqu'en 1970, c'est ça ?
Jusqu'en 1970 et à la présidence jusqu'en 1995. Je n'ai jamais été partisan d'apprendre à qui que ce soit à vivre. J'ai essayé d'aider. Les gens ont besoin qu'on les aide à vivre, pas qu'on leur apprenne à vivre. Alors, je vais me retirer des responsabilités du MRAP, n'acceptant plus qu'une mission, celle de représenter le MRAP, qui, auprès des premiers ministres successifs, a en charge l'analyse de toute espèce de projet ou de proposition de loi et d'assurer la promotion des droits de l'homme.
Et qui donne son rapport chaque année.
On le livrera le 21 mars de chaque année parce que c'est le jour anniversaire du massacre de Sharpeville en Afrique du Sud, où l'apartheid avait pris le relais du racisme nazi. Pendant de longues années, rappelons-nous, le long combat pour la libération de Mandela. Et là aussi, les choses changent, non pas par le miracle qui résout tout, mais par le combat que les hommes doivent toujours poursuivre.
Et la disparition de Staline ?
La disparition de Staline. Nous sommes en 1953. 8 ans à peine après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le Staline, qui avait cette place dans le cœur et la mémoire des hommes, c'est celui de Stalingrad, c'est pas celui du Goulag. Hein ? C'est celui dont on peut se dire à bon droit que s'il n'y avait pas eu l'Union soviétique, s'il n'y avait pas eu Stalingrad, aucun de nous n'aurait survécu. Et alors ? Faut s'excuser de ça. il est dans la nature humaine de cultiver la reconnaissance et l'émotion dans la méconnaissance des crimes que l'on découvrira après. Quelques-uns avaient connaissance.
Oui, quand même.
Bien sûr. D'accord. La guerre froide est passée par là. Quand le général Eisenhower laisse exécuter sur la chaise électrique un couple dont il est
Est-elle
évident
et Julius Rosenberg,
qu'ils n'ont pas pu commettre le crime. Hein, ouais, je vais vous vendre le secret de la bombe atomique. Vous êtes preneur ? Non, mais de qui se fout-on ? Que le macartisme a brisé des milliers de carrières, conduit à des suicides. Bon, c'est pas la dimension du goulag, mais c'est pas ça qui compte. La dimension de l'injustice, elle est la même. Elle découle de la même cruauté sociale, c'est seulement le rapport de force entre les hommes d'un même peuple qui donne une dimension au goulag ou qui limite à la chaise électrique, l'horreur. Donc, il faut porter tout ça. La disparition de Staline, le chagrin ne dure pas longtemps. Le rapport Khrouchtchev, la nouvelle tournure des choses, libère à la fois la vérité, mais libère aussi du chagrin. Après tout, ce Staline, c'était un beau salopard. Mais elle vient doucement, cette conscience. Elle ne vient pas chez tout le monde. Mais quand 30 ans plus tard, Marchais dira « la dictature du prolétariat, c'est une chose dépassée ». Mais il se fera étriper dans le parti. Pourquoi que ça a été facile ? On brocarde Marchais. Bon, on ne sait pas ce que Marchais a subi quand il essayait d'ouvrir. Peut-être qu'il n'était pas le mieux désigné pour ouvrir. Mais il voulait aussi ouvrir. Mais l'objectivité oblige à une réflexion plus saine, plus approfondie que la facilité de la caricature. Donc, non, toutes les consciences ne s'ouvrent pas à la même allure. Aux dernières élections présidentielles, quand la direction de ce qui reste du parti consent à ce que Mélenchon soit le candidat du Front de Gauche et qu'il n'y ait pas de candidat communiste, le restant du parti a failli éclater.
Vous avez voté pour Mélenchon ?
Eh oui, au premier tour, je votais Mélenchon, en sachant très bien que ça n'aura pas d'autres conséquences que d'apporter une voix de plus à ceux qui, au deuxième tour, vont, par fidélité à la gauche, appeler à voter Hollande. Et comme au deuxième tour pour les élections, je votais pour Hollande. Et je dis, et je répète inlassablement, que le candidat de gauche socialiste, avec lequel on a le moins d'attache, nous est infiniment plus précieux que le candidat de droite, fût-il le plus sympathique. La droite et la gauche, c'est pas la même chose. Charles, je veux la meilleure gauche. Mais on a la gauche qu'on a, hein, qu'est-ce qu'on peut y faire ?
Vous faites partie du Parti communiste toujours aujourd'hui ?
C'est les dernières lignes de mon livre. Comme la mer à marée basse, le Parti communiste s'est retiré de moi, me laissant sur la plage comme un coquillage, mais je ne me suis pas laissé ensabler. La mer remontera, aussi claire que le jour succède à la nuit. Je croise au matin, c'est le titre de mon bouquin.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pensez que c'est la marée basse pour le Parti communiste, mais...
Oh non, c'est la marée basse, mais le rassemblement résistant d'hier et d'aujourd'hui est une manifestation de la prise de conscience de cette marée basse. Nous sommes dans une période de recul de la justice sociale. Nous vivons une grave crise. Qu'est-ce que c'est la crise ? C'est l'enrichissement des plus riches et l'appauvrissement des plus pauvres. Et en plus, les plus riches veulent faire payer aux plus pauvres les frais de la crise. C'est dans la logique des choses. Mais en avoir conscience, c'est refuser cette injustice. Alors, est-ce que la disparition du Parti communiste va décourager les hommes de lutter pour la justice ? La disparition de Félix Potin n'a pas supprimé les supérettes et les épiceries.
Merci, Charles Pallant. Merci infiniment.
C'était le second volet d'un entretien de Daniel Mermet avec Charles Palland, une nouvelle diffusion d'une émission du 15 mai 2013. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Benjamin Delagatinée et Alain Gadan. Cette émission a été réalisée par Lucie Hakoun, Franck Adhérer et Jérôme Chélius, préparée avec Grégory Salomonovitch et Jonathan Duong. Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec un temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Qu'est-ce que vous faites à l'ambassade, monsieur ?
Alors, j'ai la bouche pleine.
Ah bah, prenez votre temps, hein.
Mais je suis venu à une présentation du film réalisé par Raghunath Manet, ainsi que son livre, Les Sept Danses Shiva. Ça fait un moment que je voulais découvrir un peu l'univers de Raghunath Manet, puisque j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai vu des vidéos. Et bon, c'est l'occasion d'ouvrir une porte pour découvrir cet univers.
Parce que quel est votre univers à vous ?
Moi, c'est la Caraïbe. Je suis de la Guadeloupe.
Vous gagnez votre vie comment ?
Ben, je suis danseur. Ah. C'est mon métier. D'accord. Ceci explique cela.
Justement, par rapport à la danse indienne que pratique Raghunath, vous pratiquez quelle danse ?
Alors, moi, je pratique la danse Gokha dans sa forme traditionnelle. Le Gokha, c'est une danse guadeloupéenne héritée de l'esclavage, mais je pratique également une danse contemporaine que j'ai élaborée à partir de cet univers.
Et votre prénom ?
Mon prénom, c'est Max.
Ben, je vous remercie, Max.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Bonjour à tous et bienvenue à l'ambassade d'Inde avec Raghunath Manet pour la sortie de son livre Shiva et les sept danses,
oui.
Préfacé par Jean-Claude Carrière.
Nous ne sommes pas des dindes, c'est pas l'ambassade d'Inde, c'est l'ambassade de l'Inde.
Excusez-moi, mais parce qu'il y a toujours le problème ambassade, enfin, avec les Indes et oui. L'Inde.
Oui, bah, vous savez, depuis Christophe Colomb, on a toujours fait des fautes. Hein. Donc tout le monde croit que je viens à dos d'éléphant parce que je suis hindou, je parle la langue hindoue. Je pense que ce sont des clichés, malheureusement, qui existent encore dans la tête des gens, peut-être pas chez tout le monde.
Qu'est-ce que représente Shiva pour vous, Raghunath ?
Shiva, pour moi, c'est le fondement même de pourquoi on est sur Terre. C'est une philosophie et non pas une religion, parce que l'hindouisme s'est emparé du shivaïsme, bien sûr, mais avant tout, le shivaïsme est une philosophie qui, si on peut dire en un mot, qui aide l'humain à devenir son propre maître. Nous sommes responsables de nos actes au quotidien. Donc, tant que nous n'avons pas fait ce travail spirituel, nous ne pourrons pas atteindre l'unité cosmique.
Que faites-vous sur Terre, Raghunath ?
En tout cas, j'ai envie de semer le beau à travers mon art. Si j'étais parti, je ne sais pas quoi faire.
Vous avez dit « si j'étais parti ».
Si je n'étais pas artiste, je ne saurais pas quoi faire.
Ah, oui. Vous êtes danseur, vous êtes musicien, vous êtes tout ça à la fois.
Vous savez, la musique et la danse, nous n'avons pas deux tiroirs en Occident. Hein. En Orient, pardon. Je veux dire, on ne peut pas demander à Michael Jackson est-ce que tu es plus danseur ou plus musicien. Je veux dire, ça va ensemble. Je peux te dire, un enfant qui bouge, qui chante un flamenco, il fait partir ses mouvements. Je veux dire, je pense qu'on ne peut pas être bon danseur sans être bon musicien. Et puis, je joue là mon instrument qui s'appelle la vina.
La vina, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange entre la guitare et le violoncelle.
C'est un ancien luth. Si on peut dire, à plusieurs cordes, à 12 cordes. Et c'est le plus vieux instrument de l'Inde traditionnelle qui sont gravés dans toutes les sculptures des temples et qui sont mentionnés déjà dans les Védas, plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. L'instrument, en tout cas, est déjà totalement arrêté au 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc cet instrument faisait partie des rites sacrés, c'était joué dans le cours des Maharajas, et cet instrument avait une place très importante dans la civilisation indienne.
Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour 2014, Raghunath Manet ?
Je pense que plein de bonheur, et d'autant plus que nous allons aussi célébrer l'année de Namasté France. C'est l'Inde qui va saluer la France. Donc, nous, les artistes nous seront invités pour montrer notre travail. Voilà. Et puis, voilà, venez me découvrir, ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui me connaissent aussi, parce qu'on est toujours en évolution, en création, en constante. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Pour boucler le boucle, le shivaïsme, il danse dans un cercle de feu. C'est-à-dire, tout est en commencement et recommencement. Et c'est ça qui m'intéresse. Et ça aussi, l'art. L'art, ce n'est pas quelque chose réchauffé, conservé. C'est quelque chose où l'intuition, l'improvisation est extrêmement importante. Et c'est ça qui nourrit mon esprit pour rester dans l'art. Et dans le shivaïsme, on dit que ce qui a été créé doit être détruit. Voilà.
Ah oui ? Ce qui a été créé, oui, donc il faut s'en servir, quoi.
Ça veut dire que nous naissons, obligatoirement, il y aura une mort.
Je vous la souhaite le plus tard possible.
Bien sûr, mais si je disais que la mort était quelque chose d'une jubilation, il y aurait la queue. Donc, heureusement qu'on ne peut pas tout mettre en boîte, il y a une part de spiritualité.
Mais vous vous considérez comme français ou comme indien ?
Un homme universel. Un temps de pochon s'est terminé aujourd'hui. Et on se retrouve lundi, Tingal Kilamay. Wanakam.
Bonne année pour tout le monde. Quelqu'un est content.
Mais il est en créole ?
Incroyable.
Et un temps de pochon a été réalisé par Véronique Barnet. Très bonne fin d'après-midi sur France Inter, il est 16h. Le flash, Gabriel Pereira.
Le vent et les pluies se renforcent à La Réunion. Le cyclone Bégisa arrive sur l'île placée en alerte rouge. Les rafales dépassent les 150 km/h et les vagues atteignent près de 10 mètres. La préfecture fait état de 8 blessés, dont un grave, des personnes sorties de chez elles pour effectuer des réparations. Plus de 80 000 foyers sont par ailleurs privés d'électricité, principalement à l'ouest de La Réunion. La ville de Saint-Leu redoute le pire. Son maire demande aux habitants d'évacuer les maisons proches de la mer. Loin de La Réunion, plusieurs communes bretonnes ont les pieds dans l'eau. C'est le cas de Quimperlé dans le Finistère. Une centaine d'habitations et de commerces ont été touchés. L'ensemble du département est d'ailleurs toujours en vigilance orange au cru. Et même chose pour le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Alerte valable jusqu'à demain matin. Vive tension au centre pénitentiaire d'Alençon en Basse-Normandie. 3 jours après une prise d'otage, un surveillant a été frappé de plusieurs coups de poinçon artisanal par un détenu. Il est grièvement blessé. Son agresseur, lui, souffrirait de troubles psychiques. Le syndicat Force Ouvrière réclame la création de 50 postes de surveillants supplémentaires. La SNCM va porter plainte contre la société privée Corsica Ferries pour concurrence illégale. C'est ce que réclamaient les syndicats de la compagnie maritime. La direction les a donc écoutés. En cause, une aide d'État versée à Corsica Ferries depuis 2002, près de 180 millions d'euros. Illégale, affirme donc la SNCM, dont le trafic est paralysé depuis 2 jours. En raison d'une grève de son personnel, aucune desserte n'est assurée entre la Corse et le continent. Le marché automobile français au plus bas depuis 15 ans. L'année 2013 a encore été marquée par une chute des ventes de voitures, moins 5,7%. PSA et Renault s'en sont dans l'ensemble mieux sortis que leurs concurrents étrangers. Renault a grappillé 0,8% grâce à sa marque à bas coût Dacia. PSA Peugeot Citroën de son côté a vendu 7,7% de voitures en moins. À l'étranger, Beyrouth secoué par un attentat à la voiture piégée cet après-midi. Forte explosion dans la banlieue sud de la capitale du Liban. Bastion du Hezbollah, il y a au moins 2 morts. Beyrouth a connu une série d'attentats à la bombe ces derniers mois, dont un qui a coûté la vie la semaine dernière à Mohamed Chatta, proche conseiller de l'ancien Premier ministre Saad Hariri. En Israël, les médecins ne cachent pas leur pessimisme. L'état de santé d'Ariel Sharon s'est fortement dégradé ces dernières heures. L'ancien chef du gouvernement est dans le coma depuis maintenant 8 ans. Plusieurs organes centraux ne fonctionnent plus normalement. Et puis l'odyssée des 52 passagers d'un navire russe a pris fin. Aujourd'hui, ils étaient bloqués depuis le 24 décembre dans les glaces de l'Antarctique. L'opération de sauvetage avait été maintes fois repoussée en raison du mauvais temps. Finalement, ce matin, un hélicoptère chinois a pu rejoindre la zone et évacuer tous les passagers.
En 2014, 14.
Tous le crochet radiophonique.
On a les moyens de vous faire chanter. France Inter réinvente le radio crochet.
On y va.
5000 auteurs, compositeurs, interprètes se sont portés candidats.
54 ont été auditionnés au théâtre des Trois Baudets.
24 ont été retenus.
À partir du 11 janvier, vivez la suite de la compétition sur l'antenne de France Inter. Tous les samedis à 21h avec Vali et Didier Varro.
Chaque semaine, 4 artistes à découvrir en live sur la scène du studio 106 de la Maison de la Radio.
Et votez pour votre artiste préféré.
Qui allez-vous faire chanter ?
Sur franceinter.fr.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission,
rendez-vous jeudi 9 janvier à 18h30 devant la porte B de la Maison de la Radio.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
On a les moyens de vous faire chanter. Le Radio Crochet de France Inter en partenariat avec la SACEM et la FNAC.
À suivre à partir du 11 janvier sur France Inter, tous les samedis à 21h.
Toutes les infos sur franceinter.fr. France Inter,
la voix est libre.
Il est 16h04 sur France Inter, vous êtes maintenant en compagnie de Frédéric Lodéon.
Merci Gabriel Pereira, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. J'espère que vous vous portez le mieux possible. Il s'appelle Matan Porat, pianiste et compositeur. Il sera à la Folle Journée de Nantes très prochainement. Par exemple, le 31 janvier, il va improviser sur le film muet Sherlock Junior de Buster Keaton. Et il nous a livré récemment un disque assez personnel, puisqu'il part d'une sonate de Scarlatti qui lui a donné l'idée d'apparier d'autres morceaux tout autour. Il trouve qu'il y a une parenté entre cette sonate de Scarlatti qu'on va entendre dans quelques minutes. Et par exemple, la valse lyrique tirée de cette série qui s'appelle La danse des poupées de Shostakovich. Eh bien, il faut chercher un petit peu, mais ce sont les secrets de chaque individu. Chacun cache en son cœur quelques petites tentations de faire des comparaisons entre des musiques, entre des êtres. Ça, c'est le domaine secret. Valse lyrique tirée des danses des poupées de Dmitri Shostakovich, interprétée par Matan Porat. Donc Matan nous donne son impression des parentés qu'il a trouvées. Vous savez, c'est comme ce jeu pour les enfants, un dessin. Sauras-tu retrouver dans le paysage tel personnage ? Mickey, Dingo, c'est à cacher, il faut bien rechercher. Et lui, il trouve qu'il y a des parentés à travers ces musiques proposées sur le disque, parce qu'il y a une utilisation des demi-tons montantes, utilisation un peu... commune à plusieurs de ces pièces. Ben, il faut chercher, puis après tout, le principal, c'est qu'ils trouvent un intérêt à les marier, ces pièces. Voici, par exemple, la gigue de la première partita pour clavier de Jean-Sébastien Bach. Quelle correspondance avec la valse lyrique qu'on a entendue ? Ben, c'est aussi une danse, déjà.